VOA Afrique,
le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 27 juin 2017. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Jean-Roger Biot. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, découverte de nouvelles forces communes dans le Kasaï.
Annonce hier de la libération d'un otage suédois détenu depuis novembre 2016 au Mali.
Au Maroc, de nouveau heurts hier entre forces de l'ordre et manifestants dans la province septentrionale d'Al-Hoceima.
Les États-Unis menacent de nouvelles représailles le régime de Bachar al-Assad qui préparerait une autre attaque chimique en Syrie.
Et puis la Cour suprême des États-Unis donne une victoire partielle au président Donald Trump sur son décret migratoire très controversé.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, 10 nouvelles forces communes ont été découvertes sur l'axe Tshikapa-Sumbula et Diboko dans le Kasaï. Et selon le procureur général de la République, Flori Kabangé, une importante équipe conduite par un magistrat s'est déjà rendue sur le lieu sur instruction de l'auditeur général des forces armées de la RDC. Il a par ailleurs annoncé avoir reçu l'autorisation de l'Assemblée nationale pour enquêter sur l'affaire Clément Kankou. Au micro de nos confrères de Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, écoutons le procureur général de la République, Flori Kabangé.
Le parquet général de la République s'active à rechercher les éventuels tireurs de ficelles dans cette grave et sinistre affaire. Il s'agit d'une démarche en vue d'identifier avec précision les donneurs d'ordre, les commanditaires, afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. C'est dans ce cadre qu'un dossier judiciaire y est ouvert à charge du député national Clément Kankou, à partir notamment de l'élément sonore se trouvant dans les dix dossiers qui reprend une conversation téléphonique entre les dix députés national recevant le rapport détaillé d'actes de destruction, d'incendie et d'exaction en cours à Tchimboulou en date du 8 août 2016. L'honorable député y exprime sa pleine satisfaction et encourage son interlocuteur à faire davantage.
Le procureur général de la République, Flori Kabangé, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Toujours en République démocratique du Congo, 7 militaires congolais risquent entre 12 mois et la perpétuité pour le meurtre de civils au Kasaï. L'ONU a regretté hier l'absence de poursuites pour crimes contre l'humanité dans cette affaire. Eric Manirakiza.
Le verdict est attendu samedi prochain. Le procureur militaire a requis la prison à perpétuité contre deux majors et un adjudant pour meurtre, dissipation de munitions et outrage. Un capitaine et un lieutenant risquent 20 ans de prison, tandis qu'un autre adjudant risque 10 ans. Le septième, un adjudant-chef, est coupé de 12 mois avec sursis pour recel d'image. Samedi, le tribunal militaire d'Ombudjimaï a abandonné la charge de crime de guerre, ce que l'ONU a regretté hier. Les 7 militaires sont poursuivis pour des exactions commises au Kasaï. L'armée est engagée contre la rébellion Kamuina-Nsapu, accusée d'enrôler des enfants soldats et de commettre des atrocités. L'ONU a dénoncé l'usage disproportionné et indiscriminé de la force par l'armée congolaise. Selon l'Église catholique, ces atrocités ont causé la mort de plus de 3000 personnes et fait 1,3 million de déplacés. Deux experts de l'ONU qui enquêtaient sur ces violences ont été assassinés en mars dernier.
Le mercenaire anglais Simon Mann, impliqué dans une tentative de coup d'État en 2004 contre le président équato-guinéen Teodoro Obiang, a accusé lundi le financier américain George Soros et l'avocat de Transparency William Borden d'avoir voulu renverser le régime. Simon Mann, âgé de 65 ans, était cité par la défense de Teodoro Obiang, fils du président équato-guinéen, jugé à Paris dans l'affaire des biens mal acquis devant le tribunal correctionnel de Paris. Condamné à 34 ans de prison en Guinée équatoriale pour tentative de coup d'État, Simon Mann a été gracié par le président Obiang, puis libéré en 2009.
Les autorités suédoises ont annoncé hier la libération d'un de leurs ressortissants détenu depuis 2011, plus précisément depuis novembre 2011 au Mali. Johan Gustafsson avait été enlevé par Al-Qaïda au Maghreb islamique, à Tombouctou, dans le nord du pays. Des précisions avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est à Tombouctou que le désormais ex-otage suédois avait été enlevé le 25 novembre 2011 par Al-Qaïda au Mali. À l'époque, Johan Gustafsson avait été arrêté sur la terrasse de son hôtel avec un Néerlandais et un Sud-Africain. À Bamako, peu d'informations circulent sur sa libération qui s'est déroulée dans une zone non contrôlée par le gouvernement malien dans la région de Kidal. Le Suédois a passé 57 mois entre les mains de ses ravisseurs qui ont tourné avec lui à l'intérieur comme à l'extérieur du Mali. Et pour sa libération, il a fallu l'intervention des intermédiaires. Sur ces aspects, le gouvernement suédois est moins bavard, tout comme sur la question des paiements des rançons. La Suède ne donne aucun détail sur les modalités de libération de Johan Gustafsson, la seule personne qui reste introuvable après le rapt du 25 novembre 2011 est le Sud-Africain. Il faut signaler qu'il reste encore 6 otages occidentaux, un agent de l'Institut de prévoyance sociale du Mali et des soldats maliens entre les mains des terroristes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Maroc, de nouveaux heurts ont opposé lundi forces de l'ordre et manifestants dans la province septentrionale d'Al-Hoceima où la contestation sociale perdure. Ces violences interviennent au lendemain d'une déclaration du roi Mohamed VI qui a dénoncé la lenteur des chantiers de développement mis en œuvre par le gouvernement dans cette région. Un grand rassemblement à l'appel du mouvement de contestation avait été programmé lundi dans la ville d'Al-Hoceima, jour de l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du Ramadan.
Au Zimbabwe, l'opposant Mawarire, de nouveau interpellé, Evan Mawarire est l'un des leaders de la contestation anti-Mugabe. Il a été arrêté lundi par la police et aussitôt inculpé d'incivilité dans l'espace public pour avoir soutenu publiquement des étudiants en médecine en grève, d'après l'AFP. Le pasteur Mawarire, qui n'est affilié à aucun parti politique, avait lancé début 2016 sur les réseaux sociaux une campagne de protestation contre le gouvernement. Le mouvement s'était peu à peu éteint face à la brutale répression du régime du président Mugabe, âgé de 93 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont identifié de potentiels préparatifs d'attaques chimiques par le régime de Bachar al-Assad en Syrie et menacent M. Assad et son armée, selon la Maison-Blanche, de leur faire payer le prix fort si cette attaque avait lieu. Washington avait réagi par des tirs de missiles après une attaque similaire début avril. Cette nouvelle attaque chimique pourrait provoquer le massacre de civils, y compris des enfants innocents, a écrit le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, dans un communiqué.
La Cour suprême des États-Unis a offert hier une victoire politique à Donald Trump en remettant partiellement en vigueur son décret migratoire très controversé. La décision est tombée au dernier jour de la session annuelle de la Cour qui a accepté d'examiner ce dossier explosif en octobre. Chez Rubin Dorsil.
La décision rendue à l'unanimité est une victoire nette pour notre sécurité nationale, s'est félicité le président Donald Trump. Le décret interdisant temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 6 pays musulmans, Syrie, Libye, Iran, Soudan, Somalie et Yémen, s'applique à tout habitant de ces pays qui serait totalement inconnu des autorités américaines. À l'opposé, les ressortissants de ces pays désirant rendre visite à un membre de leur famille vivant aux États-Unis seront admis, tout comme les étudiants acceptés dans une université américaine. La mesure qui a fait couler beaucoup d'encre est censée s'appliquer durant 90 jours pour les citoyens de ces 6 pays et 120 jours pour les réfugiés, le temps que l'administration redéfinisse ses procédures de filtrage des arrivants. Il faudra plusieurs jours pour que ces nouvelles mesures soient appliquées pleinement par la police américaine aux frontières.
L'avenir de la réforme républicaine du système de santé promise par le président Trump était incertain lundi, plusieurs élus de la majorité au Sénat étant prêts à faire défection face à une loi qui priverait 22 millions d'Américains de couverture maladie pendant la prochaine décennie. Telle serait une des conséquences des coupes draconiennes qui frapperaient le budget fédéral de la santé. C'est ce qui ressort du nouveau rapport très attendu du Bureau du budget du Congrès, le CBO. Le projet de réforme élaboré par les chefs de la majorité républicaine du Sénat sera débattue cette semaine avec un vote souhaité avant la fin de la semaine.
Le président Trump a déclaré hier qu'on lui devait des excuses. après une enquête de 4 mois qui n'a rien donné sur les allégations de collusion entre sa campagne et la Russie pendant la présidentielle de 2016. Dans une série de tweets hier, M. Trump a également accusé son prédécesseur Barack Obama de n'avoir rien fait après avoir été informé d'une telle ingérence par les services de renseignement américains. La Minute Éco, Jacques Aristide.
Le Togo et la Banque Ouest-Africaine de Développement viennent de signer 2 accords de prêt d'un montant total de 27,6 milliards de francs CFA. Le premier concerne l'aménagement des terres agricoles dans le nord togolais et le second, la réhabilitation de la route Lomé-Cotonou qui inclut un volet protection côtière. Victime de pêche illégale, le Cameroun fait état d'un déficit de 110 000 tonnes de poissons par an dans un rapport. La FAO, l'Agence onusienne pour l'agriculture, relève les potentialités halieutiques du pays qui toutefois doit désormais se tourner vers l'importation pour satisfaire le marché local. Selon des médias locaux, des bateaux chinois, mais aussi des pêcheurs venant du Ghana, Bénin, Mali et Nigeria exploitent de manière abusive les bancs de pêche camerounais. Au Mozambique, le parti d'opposition Renamo critique le rôle supposé de la France dans le scandale de la dette cachée après la publication d'un rapport d'audit indépendant. En 2013 et 2014, 3 entreprises publiques avaient emprunté 2 milliards de dollars en secret pour acheter du matériel de surveillance maritime et des navires. 24 chalutiers et 6 patrouilleurs ont été livrés par l'homme d'affaires français Iskandar Safa. Ces chalutiers rouillent au port de Maputo par manque de marins et de permis de pêche.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
2e journée de la Coupe COSAFA aujourd'hui.
Effectivement Idrissa, duel des mâles classés dans le groupe A. Le Malawi et l'île Maurice tenteront chacun d'engager leur premier point dans ce tournoi. Autre opposition, celui des mieux nantis du groupe, Angola-Tanzanie, 3 points chacun. On rappelle qu'hier dans le groupe B, Madagascar a pris le dessus sur les Seychelles, 2-0 et le Zimbabwe a étrié le Mozambique, 4-0.
Inquiétude pour l'attaquant mexicain Javier Hernandez à la Coupe des Confédérations.
Oui, à 2 jours de la finale contre l'Allemagne, Javier Chicharito Hernandez, principale arme offensive du Mexique, a été ménagé hier lundi à l'entraînement. L'avançant de 29 ans est le meilleur buteur de l'histoire du tri avec 48 réalisations. L'autre demi-finale mercredi opposera le Chili au Portugal.
Attribution du Mondial 2022 au Qatar. Un rapport secret enfin révélé.
En effet, le fameux rapport Garcia du nom de l'enquêteur indépendant Michael Garcia et que la FIFA avait jusque-là refusé de dévoiler au public. Le quotidien allemand Bild affirme avoir pu consulter ce rapport. Un des exemples les plus scandaleux selon le journal, 2 millions de dollars auraient ainsi été versés à la fille de 10 ans d'un membre de la FIFA avant l'attribution du Mondial 2022. Toujours selon Bild, ce rapport Garcia révèle qu'un ancien membre exécutif de la FIFA a félicité des membres de la Fédération Qatari et les a remerciés par mail pour un virement de plusieurs centaines de milliers d'euros juste après l'attribution de la compétition au Qatar. Bild ajoute aussi que 3 membres exécutifs de la FIFA disposant du droit de vote sont allés à une fête à Rio dans un jet privé de la Fédération Qatari de foot avant le vote pour l'attribution de la compétition. La FIFA n'a pas réagi pour le moment.
Tennis à présent, Andy Murray reste le numéro 1 mondial.
Oui, pas grand bouleversement dans le top 10. Andy Murray conserve sa première place. Finaliste au Queens, le Croate Marin Cilic s'est tissé à la 6e place du classement ATP publié hier lundi et qui marque le recul d'un rang 7e du Canadien Milos Raonic, éliminé lui au premier tour du tournoi londonien. De son côté, Roger Federer, vainqueur pour la 9e fois à la Halle, reste 5e.
Le
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nouveau drame de l'immigration dans le Sahara. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Donc, nouveau drame de l'immigration dans le Sahara. 23 migrants ont été retrouvés dans le département de Bilma, proche de la ville de Séguédine, au Niger. En état de déshydratation intense, ils ont pu être admis au centre de soins. Ils ont témoigné avoir été 70 à prendre le départ par la route dans 3 voitures différentes. Aucune trace pour le moment des 47 autres migrants. Pour davantage de détails, Claire Morin-Gibour a joint le préfet de la région de Bilma, Boudou Fatoumi.
La police a été saisie par une personne qui a préféré garder l'anonymat que des migrants se trouvant dans un état très critique sont abandonnés à 50 km de Séguédine, précisément sur l'axe Séguédine puis Espoir. Ils ont retrouvé 23 migrants très déshydratés, dont 9 Nigériens. Parmi les 9, il y a une femme, 8 Ghanéens, dont 5 femmes, 3 Sénégalais, 2 Gambiens et 1 Malien. Selon les intéressés, ils étaient près de 70 à embarquer dans 3 véhicules Hilux à partir d'Agadez.
Est-ce que vous avez réussi à localiser les autres migrants dans ce groupe de 70 personnes?
Voilà, ils ont retrouvé 23. Maintenant, les 23 leur ont dit que il y a 15 qui sont décédés, d'autres 10, 17. Ils ont dit qu'ils les ont enterrés. Maintenant, les policiers, les gardes et celui qui a donné l'information, ils ont fait un ratissage sur environ un rayon de 65 km, mais ils ont trouvé une seule personne, un Nigérien, en vie et ils ont découvert une tombe. Ils ne savent pas de qui il s'agit précisément, mais quand même, à côté de la tombe, ils ont découvert une carte d'identité d'un étudiant nigérien.
C'est une situation auquel vous êtes confronté très souvent. Comment vous y faites face?
Ah oui, vraiment, ça, c'est la question qui nous tient vraiment à cœur maintenant. Chaque fois, on nous dit qu'il y a des migrants qui sont abandonnés ou bien il y a des migrants qui sont égarés. On nous appelle pour nous dire... Vous savez, avec les moyens qu'on a, c'est très difficile chaque fois d'aller chercher ces migrants. Bon, heureusement, il y a l'OIM aussi qui nous appuie. Et avant, pour demander du carburant et aller à la recherche de ces migrants, l'OIM nous dit qu'il faut faire une requête, envoyer à Niamey. Et deux fois, la réponse que le niveau central donne, elle est négative. Donc, il faut retourner, peut-être retourner le lendemain. Donc, c'est comme ça. Deux fois, la requête passe, ils nous donnent du carburant, on part à leur recherche. Mais maintenant, les choses ont changé. C'est eux-mêmes maintenant qui viennent vers nous pour nous demander de leur donner une escorte pour aller chercher. Parce que rien que la semaine passée, en l'espace de 3 jours, 2 fois, on leur donne la patrouille départementale pour les escorter et aller sauver des migrants.
C'était Boudou Fatoumi, le préfet de la région de Bilma.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h/24.
Au Bénin et dans le cadre de la lutte contre le mariage des enfants, les autorités ont lancé une campagne qui permettra de sanctionner les récidivistes. Le Bénin fait encore partie des pays africains où la tradition continue d'avoir une grande influence, une tradition qui semble porter préjudice à la femme plutôt que de la protéger contre la violation de ses droits les plus basiques. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, le mariage des filles âgées de moins de 15 ans à qui on refuse de s'instruire et de s'épanouir persiste. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adnondé, nous parle de la campagne Tolérance Zéro face au mariage des enfants lancée par le gouvernement béninois à la faveur de la journée de l'enfant africain.
Donner sa fille en mariage à l'apparition de ses premiers menstrues est une exigence de la tradition rigoureusement respectée par certaines familles, surtout dans le nord du Bénin, où la dot est généralement perçue depuis la conception du bébé ou à petit coup dès la naissance. Au Bénin, 3 filles sur 10 sont mariées avant de franchir les 18 ans. Ghislaine Bokovo est commissaire de police, responsable de l'Office central des mineurs de la famille et de la répression de la traite des êtres humains.
La sensibilisation a très duré. Il faut frapper, sanctionner pour nous. montrer l'exemple. Il faut qu'après cette sensibilisation, en tout cas pour ce qui est de mon côté, je ne cesse de mener cette campagne, surtout dans les organes de sécurité, pour demander à mes pairs de combattre le phénomène dans cette dernière rigueur.
Avant même que la campagne Tolérance Zéro face au mariage des enfants ne soit lancée, plusieurs associations ont déjà compris l'urgence de l'heure et s'investissent déjà à jouer leur partition pour une enfance épanouie. C'est le cas du Roi Gel sur le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin, dont la présidente au plan national et régional se dit préoccupée par l'avenir de ces jeunes enfants. Marielle Degoué.
Nous savons que parfois ce qui arrive n'est pas toujours de leur fait. C'est souvent du fait de la tradition. Mais nous voudrons juste les interpeller et leur dire de nous regarder nous. Nous ne sommes pas encore arrivés comme on le dit, mais nous sommes sur le chemin d'y arriver. Ce qui suppose que si à moins de 15 ans nous avions été donnés en mariage, si nous avions été mère, épouse ou fille, épouse, à moins de 15 ans, nous ne serions pas ici.
Le mariage des enfants est un phénomène contre lequel se bat l'UNICEF depuis plusieurs années. Pour l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, Kay Angélique Kidjo, ce phénomène est plus que de la torture.
Les jeunes filles m'ont dit, traverser la rivière parce qu'elles ne savent pas nager. On les met dans l'eau en disant, tu veux te marier, tu vas te marier. Quand elle est sur le point de se noyer, on la ressort de l'eau, elle dit, oui, je veux me marier. Elle revient ici, elle refuse, on la ramène dans l'eau. C'est quoi ça? C'est de la torture, ça.
La campagne qui vient de démarrer, comme son nom l'indique, ne fera de cadeau à personne. Pour Akosiwa Stella Dopodio, présidente de la fondation Éduque Filmaire, il faudra se démarquer des apparitions dans les médias pour combattre le phénomène sur le terrain dans les zones connues pour être le lit de ce genre de crime contre l'épanouissement des jeunes enfants.
Je trouve que pour que cette campagne-là marche, il faut vraiment que nous allons auprès des filles qui souffrent réellement de ces problèmes, s'approcher réellement des parents qui pensent encore naïvement ou par manque d'informations que le mariage d'enfants est quelque chose qu'il faut perpétuer ou que c'est un acte qui a encore des valeurs. Faire réellement quelque chose de concret.
Plusieurs artistes se sont engagés pour aider à sensibiliser.
La fille souffre, elle doit aller à l'école, elle doit être émancipée, elle doit servir sa nation demain. Mais une fille qui n'est pas encore en âge garder une grossesse, qui est donnée en mariage, qui subit des rapports sexuels de force. Donc c'est une très belle cause et je suis prête, je me suis engagée dedans.
Le Bénin pourra-t-il gagner le combat d'en finir avec le mariage des enfants? Seul l'avenir nous le dira. Peut-être qu'avec la volonté politique qui porte désormais la mission, on ne verra plus de filles porter sur leur tête ou sur leurs épaules les conséquences d'une tradition, quoi qu'on dise, bourreau des femmes. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Centrafrique, un volontaire de la Croix-Rouge, Joachim Ali, a été tué vendredi soir dans les locaux de la Croix-Rouge à Bangassou. À Bria, des affrontements entre groupes armés ont fait une centaine de morts la semaine dernière et des locaux d'organisations humanitaires ont été pillés. Idriss Fall a joint à Bangui Antoine Bao Bogo, président de la Croix-Rouge centrafricaine.
Son corps a été retrouvé le matin inanimé. Il a été assassiné par des gens inconnus. Il est volontaire de la Croix-Rouge. Quelqu'un qui a dit, bon, mais écoutez, moi je suis volontaire, je n'ai pas de logis à Bangassou. Je vais dormir au siège local de la Croix-Rouge et je vais m'occuper du local, le gardiennage. C'est ainsi que depuis plusieurs mois, il s'en occupe. Malheureusement, ils sont venus l'abattre juste parce qu'il est musulman. Vous savez, Joachim Ali, il est musulman, on l'a tué parce qu'il est musulman, c'est triste.
Et récemment, à Bangassou, il y avait eu aussi des affrontements.
Il y a eu des affrontements entre des groupes armés de part et d'autre anti-Balaka, et qui a fait en sorte que même là, il y a le personnel de la MINUSCA qui était décédé. Tué là-dedans, il y avait 6 MINUSCA et il y avait plus de 100 et quelques morts à Bangassou. Donc, jusque-là, la ville est toujours dans une situation de guéguerre.
Mais est-ce que l'insécurité, ça s'arrête seulement à Bangassou concernant les agents humanitaires?
C'est l'arrière-pays. Les humanitaires sont en grande difficulté pour travailler, en très grande difficulté pour travailler. Et nous allons faire un appel pour que les groupes armés, les porteurs d'armes, respectent les humanitaires qui ne font que aider la population.
Et d'autant qu'à Bria aussi, la semaine dernière, il y a eu des affrontements meurtriers, une centaine de personnes tuées aussi.
Même jusqu'hier, la Croix-Rouge est en train de ramasser les morts. On dépasse déjà la centaine, hein. On dépasse déjà la centaine de morts à Bria. Et même hier, il y a eu encore des combats. Il y a eu deux ou trois morts, mais il y a encore des combats. Il y a eu des combats hier. Sur l'axe Bria-Ouadadjalo au Pikawit, il y a eu des personnes qui sont mortes à l'issue des combats.
Est-ce que vous avez un appel à leur lancer?
Je demande, la Croix-Rouge centrafricaine demande à tous les porteurs d'armes de respecter la présence des humanitaires qui sont là pour faire un travail qui est favorable aux vulnérables. Et les humanitaires en général et la Croix-Rouge en particulier, nous ne prenons pas part aux hostilités de nous aider, de nous laisser travailler, mais de ne pas s'en prendre à nous. Voilà le message que je voulais passer aux porteurs d'armes.
Répondant hier aux questions d'Idriss Fall, c'était Antoine Bao Bogo, président de la Croix-Rouge centrafricaine. Quatre artistes ont été arrêtés vendredi et transférés à la prison centrale de Goma, dans l'est de la RDC. Ils sensibilisaient les populations sur les récents massacres à Beni et dans la région du Kasaï. La lutte pour le changement, qui est un mouvement citoyen, dénonce cette arrestation. Solange Niamoulissa a joint hier Fred Boma, président de la Lucha à Goma.
Le cas, les artistes ont été arrêtés pendant qu'ils organisaient une exposition artistique vendredi passé à Goma. Une exposition dans laquelle ils dénonçaient le tuerie à Beni et dans la région de Kasaï. Alors pendant qu'ils étaient en train de manifester, la police a débarqué. On les a tous amenés d'abord à la mairie de Goma avant de les amener au parquet, ensuite à la prison centrale de Goma, où ils sont juste en ce moment.
Et qu'est-ce qu'on leur reproche?
On n'a pas encore constitué jusque-là des vraies infractions contre eux, selon les avocats. Mais il semblerait qu'on leur reproche d'avoir troublé l'ordre public et d'avoir incité d'une certaine manière à la rébellion, en demandant notamment que les gens prennent conscience qu'ils doivent agir, qu'ils ont une responsabilité. Ce que nous trouvons évidemment très scandaleux et qui condamnons fortement. On ne peut pas arrêter quelqu'un et considérer que les opinions d'un artiste, qui sont en plus basées sur des faits vrais, viennent des actes constitutifs d'une rébellion.
Est-ce que c'est interdit de manifester au Congo ou il faut avoir une autorisation pour manifester?
Selon la Constitution, on ne doit pas avoir une autorisation. On doit informer juste les responsables au niveau urbain. Et qui, je pense, a été fait. Mais dans la pratique, il y a une sorte d'interdiction de fait de manifester, surtout lorsqu'il s'agit de manifestations de personnes qui ne s'expriment pas forcément dans le sens de ce que veut le gouvernement. C'est en fait une façon de réprimer toutes les voix discordantes, si bien de la société civile, des artistes ou des mouvements citoyens comme nous, même des gens d'opposition. Mais toutes les autres manifestations qui sont pour vanter les actions du gouvernement et sont clairement autorisées, entre guillemets, on constate simplement que les manifestations et toute autre forme d'expression publique de opinions qui condamnent des actions du gouvernement ou l'inaction du gouvernement sont systématiquement réprimées.
Et que demande maintenant la Lucha par rapport tout justement à l'arrestation de ces artistes?
La Lucha demande que ces artistes qui n'ont fait qu'exprimer de manière artistique ce que tout le monde pense et ce que tout le monde condamne d'ailleurs, soient tout simplement libérés sans condition. Qu'ils ne soient pas obligés de payer aucune caution qui serait dans ce cas considérée comme une sorte de rançon à la justice, mais qu'ils soient simplement remis en leur liberté parce qu'ils n'ont commis aucune infraction. Ils n'ont fait qu'exprimer leurs opinions, opinion qui est par ailleurs partagée par presque toute la population ici à Goma et dans le pays. Ils n'ont pas à être condamnés pour ça. Ils n'ont pas à passer un jour de plus en prison pour ça. Ils doivent être libérés immédiatement.
C'était Fred Boma, membre de la Lucha à Goma.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook, tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jean-Roger Dion pour le suivi de l'actualité et Sims Loumami pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.